Alors, quel est ce document, Raphaël?
Déjà, quand on dit guide de survie, effectivement, ça interpelle, et notamment sur les réseaux sociaux, on a vu que ça a été extrêmement commenté, avec donc la révélation d'un projet de document. C'est vrai qu'il a été parfois présenté comme une sorte de manuel de survie. En cas de guerre, forcément, beaucoup de gens sont très inquiets. Il y a des politiques aussi qui tentent de surfer dessus pour imaginer que le gouvernement nous préparerait à la guerre. Et certains font notamment le parallèle, Elsa, je pense que ça va parler.
Absolument.
Avec un manuel suédois.
Et polonais aussi.
Et polonais, exactement. Mais en Suède, notamment, un manuel qui était mis à jour. Absolument, et qui était envoyé à 5 millions de foyers. Il est intitulé « En cas de crise ou de guerre ». L'idée, c'est de préparer la population à des crises majeures, mais aussi à des guerres, notamment depuis l'adhésion de la Suède à l'OTAN. On le voit apparaître, hein. Ça, c'est la nouvelle version. Alors, il a déjà été édité plusieurs fois depuis la Seconde Guerre mondiale, mais là, il y a une réédition et il a été distribué donc très largement en fin d'année dernière.
Sauf que la réalité est légèrement différente.
Oui, alors quand on interroge Matignon, effectivement, c'est pas tout à fait la même version. Selon Matignon, le manuel n'est pas du tout destiné spécifiquement à la guerre. En fait, il est lié à une stratégie de résilience nationale gouvernementale qui avait été mise en place après le Covid, notamment pour mieux réagir en cas de crise. Parmi ces objectifs, il y a la communication au grand public, mais pour se préparer à des épidémies, des catastrophes naturelles, des cyberattaques, des attaques terroristes ou effectivement un conflit armé. Mais ce n'est pas un manuel de survie au cas où on serait attaqué demain par la Russie, et il ne date pas d'il y a quelques jours. En fait, c'est un projet de longue date. Une autre précision, déjà, précision importante, le ministère des Armées n'est pas impliqué, c'est de la pure communication au sein des services liés au Premier ministre. Le document, il n'est pas encore finalisé. Alors là, ce qui apparaît à l'écran, je le précise, c'est un kit d'urgence. Ça, c'est vraiment ce qui est disponible pour la population sur le site. Mais en cas d'urgence imminente, je ne sais pas forcément ce qui apparaîtra dans le document.
Des bouteilles d'eau, des conserves, des médicaments.
Exactement. Mais on n'a pas encore les informations sur ce qui sera contenu. Mais effectivement, face à un accident industriel ou un séisme, on peut imaginer qu'il puisse y avoir ce genre d'éléments. Et puis, on ne sait pas encore de quelle façon il sera distribué. C'est là aussi où le parallèle avec la Suède a ses limites. Est-ce qu'il sera envoyé à des millions de Français, à tous les foyers?
Beaucoup d'argent.
Oui, ça fait beaucoup d'argent avant l'été.
Ça fera une nouvelle polémique pour le gouvernement.
Mais c'est effectivement des informations qui ont circulé. Ça peut être aussi simplement des visuels ou un document d'une 10-20 pages qui sera distribué en ligne, mis en avant sur les réseaux sociaux.
Ouais, il y a plein de pays nordiques, en fait, qui ont fait ce choix-là. Qui ont fait le choix de mettre en ligne le document et aussi de le mettre en ligne en plusieurs langues. Et puis en Pologne, on a vu la même démarche, mais il a été décliné dans une version pour enfants et aussi une version pour les 900 000 Ukrainiens réfugiés en Pologne.
Ouais.
Et dans ce document-là, la Russie n'est jamais mentionnée.
Effectivement, le document suédois, je l'ai téléchargé. Il est disponible en anglais. Je ne parle pas le suédois, mais en anglais, effectivement, la Russie n'est jamais mentionnée.
Jamais.
Louis Saillant, je me posais la question, est-ce qu'on a déjà reçu ce genre de livret en France, je ne sais pas, pendant la Première Guerre mondiale, ça a déjà existé?
Oui, je pense qu'il y a des cas, notamment pendant la guerre froide.
Ouais.
Il y avait pas mal d'initiatives un peu du même ordre qui étaient adressées à la population. Avec notamment comment se défendre face à un char, comment se défendre si les troupes soviétiques arrivent, en fait. C'était la grande angoisse de la guerre froide. Alors maintenant, moi, ce document, je trouve que faut pas être trop alarmiste non plus. Il y a quand même beaucoup de bon sens dans le document.
Alors, je ne sais pas si le document sera inspiré du kit d'urgence, mais c'est vrai que quand on voit les bouteilles d'eau, les conserves, les médicaments, c'est du bon sens tout ça.
Après, il y a quand même beaucoup de bon sens. Et je pense qu'il faut quand même être méfiant par rapport à ça. Je pense qu'il faut pas faire d'alarmisme par rapport à ça, et surtout il ne faut pas verser dans le survivalisme, qui est quand même une tendance de fond qui aime bien instrumentaliser ce genre de choses et qui est relativement stérile, je pense. Donc je pense qu'il faut quand même prendre tout ça avec des pincettes. Il faut boire frais. Et puis le dernier point, qui est un peu élémentaire, tout le monde aura compris, mais c'est qu'il y a quand même une profondeur continentale en Europe. C'est-à-dire que on n'est pas, si jamais il devait y avoir quelque chose, si la Russie avait d'autres ambitions, on ne serait pas au premier rang.
Ouais. Et puis c'est peut-être pas un livret qui nous protégerait non plus.
Moi, je vais vous faire une révélation. Ça a toujours existé, puisque j'ai travaillé pour ce genre de...
Excellent.
Quand j'étais étudiant. J'ai été embauché dans une agence qui travaillait pour la sécurité civile.
Mm-hmm.
Et la sécurité civile, son rôle, c'est effectivement de préparer des documents pour la population entière en cas d'incendie, en cas de grosse épidémie, en cas d'agression militaire. Et c'est un document qui... Alors, vous travaillez toutes les toutes les phases, toutes les solutions.
Alors, c'est quoi les conseils?
Les conseils, c'est quand vous avez un nuage toxique. Alors, j'ai pu en souvenir, ça fait pas mal de temps maintenant, 45 ans peut-être que je travaille là-dessus.
Autant de temps que
mais ça a tous toujours existé. Secs, et c'est, je me souviens même du nom du général qui, à l'époque, dirigeait ça. Et je ne révélerai pas son nom, parce que c'est fort ancien. Mais ça a toujours existé.
Mais est-ce que ça dépasse les conseils de bon sens
On a l'impression d'enfoncer des portes ouvertes.
On voit bien ce qui s'affiche à l'écran. Ça, c'est le service d'information du gouvernement. Ça, c'est en ligne depuis plusieurs années. C'est pas nouveau, ce qui apparaît à l'écran. Je le reprécise encore une fois.
Je n'ai pas travaillé pour rechercher ce qu'il fallait faire. J'ai travaillé pour écrire les textes. Donc, j'écrivais ce qu'on me disait. Mais voilà. Et le document, en l'occurrence, à l'époque, il n'y avait pas l'Internet, était prêt à être diffusé à des millions d'exemplaires si c'était nécessaire.
Et très rapidement, on parlait aussi de la distance avec le front, mais il y a un front qui arrive en France.
Le cyber.
Exactement. Alors, il y a le cyber, les cyberattaques. Et ce qui serait aussi mentionné dans ce document, c'est aussi comment réagir face à de la désinformation, aux ingérences. Ouais. Et les ingérences et le cyber, effectivement, on n'a pas besoin de boîtes de conserve, mais on a besoin aussi d'en avoir conscience. Et c'est a priori ce qui pourrait être, entre autres, diffusé dans ce document.
Mais juste, Nicolas Tenzer, il faut peut-être se poser aussi la question, effectivement, de l'objectif derrière. Est-ce que c'est réellement de donner des conseils ou est-ce qu'on est plus dans une logique de campagne de communication, de sensibilisation? Quand Emmanuel Macron disait il y a quelques jours, voilà, la patrie a besoin de vous, engagez-vous, notamment auprès de la réserve citoyenne. Est-ce qu'il y a ce message-là aussi derrière?
Je pense qu'il y a une sensibilisation, que nous sommes effectivement un pays qui est potentiellement affronté à de graves dangers. Alors, il y en a certains que nous connaissons malheureusement, qu'on nous avons vécu tragiquement, qui sont les attentats terroristes, comme on a eu en 2015, mais de manière répétée, de moindre échelle, quand même régulièrement sur le territoire. Mais même quand vous parlez de cyberattaques, qui sont quand même une technique, notamment russe, très lourde, ce sont des cyberattaques qui peuvent être mortelles. C'est-à-dire que quand vous avez un hôpital qui est débranché, eh bien vous avez des personnes dans un bloc opératoire qui peuvent en mourir. Si vous avez une cyberattaque sur un système de signalisation de chemin de fer ou de signalisation routière avec des feux rouges ou des feux verts qui fonctionnent de manière anarchique, vous pouvez avoir des collisions de trains, vous pouvez avoir des accidents de voiture. Et puis vous avez aussi, je termine, juste sur un point, ce que vous avez vu en Lituanie, ce que vous avez vu avant en Pologne et dans d'autres pays, des incendies volontaires qui ont été directement imputés aux Russes. Alors,